France Culture.
Et d'abord, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Ancien maire de la capitale, il restera surtout comme l'incarnation d'une certaine époque de la vie politique parisienne. Jean Tiberi est mort ce matin à l'âge de 90 ans. On reviendra sur sa très longue carrière marquée par de très nombreuses affaires. C'est aujourd'hui que les députés doivent se prononcer sur la création d'un droit à l'aide à mourir. Première étape d'une réforme majeure et sensible qui continue à diviser le pays presque davantage que sur les bancs de l'Assemblée. Avec notre invité aujourd'hui, le président du Conseil régional de Bretagne, on parlera du rôle des élus locaux pour la sauvegarde des emplois industriels. Et puis l'actualité à l'étranger, c'est notamment cette annonce par le chancelier allemand de la fin de la limitation de la portée des armes livrées par les Occidentaux à l'Ukraine. Une annonce jugée dangereuse par le Kremlin. On tâchera d'en apprécier la portée et surtout les limites. Élu municipal à partir de 1965, député sans interruption entre 1968 et 2012, mais aussi bien sûr maire de Paris de 1995 à 2001. Jean Tiberi est donc mort ce matin à l'âge de 90 ans, une figure de la vie politique à la carrière d'une exceptionnelle longévité dont le nom était également associé à sa femme, Xavière, avec laquelle il formait en l'occurrence un couple indissociable de la vie locale, devenu par la suite le symbole des magouilles ou à tout le moins du clientélisme et des méthodes interdites de la droite parisienne, avec son affaire la plus retentissante, celle d'une fraude électorale massive. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
La manière peut-être la plus juste de résumer son parcours, c'est un livre sorti en 2023 qui parlait de Jean Tiberi comme d'un homme ordinaire à la carrière extraordinaire.
Oui, la formule est du politologue Laurent Godemer qui lui a consacré une biographie effectivement en 2023. La carrière politique de Jean Tiberi dure près de 50 ans. Il est corse d'origine, a une formation de juriste et il se construit politiquement dans le sillage de deux hommes. Le premier, c'est un gaulliste historique, un gaulliste de gauche, René Capitan. Dans les années 60, celui prend le jeune Tiberi sous son aile et le fait élire conseiller municipal de Paris en 1965. Ensuite, il fait de lui son assistant parlementaire, puis son suppléant. Et quand René Capitan entre au gouvernement en 68, Jean Tiberi devient député. Un mandat qu'il va conserver sans discontinuer pendant 44 ans, vous l'avez dit, jusqu'en 2012. Dans les années 70, il rencontre son deuxième grand homme politique, Jacques Chirac. Il défend Chirac quand celui-ci décide de soutenir Valéry Giscard d'Estaing en 1974, ce qui lui vaut, deux ans plus tard, en 76, d'être nommé secrétaire d'État aux industries alimentaires. Ce fut la seule participation de Jean Tiberi à un gouvernement et n'a duré que quelques mois. Car Chirac, en août 76, démissionne avec fracas du poste de Premier ministre et il emmène Jean Tiberi dans son sillage. Un an plus tard, en 77, Jacques Chirac est élu maire de Paris et il fait de Jean Tiberi l'homme des basses œuvres et l'un des principaux rouages de l'administration de la capitale. Dans l'ombre de Chirac, Jean Tiberi s'occupe de tout. Il devient indispensable. Si bien qu'en 1995, quand Chirac est élu président de la République, c'est lui qui prend la suite et devient maire de Paris. Son élection est à la fois une consécration et le début des ennuis pour le clan Tiberi. On s'aperçoit que les enfants Tiberi bénéficient de logements sociaux tout en étant propriétaire. On apprend que sa femme, Xavière, a été rémunérée par le Conseil Général de l'Essonne pour un rapport bidon sur la francophonie. Et puis surtout, est dévoilée l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement qui fait apparaître un gigantesque système de clientélisme. Jean Tiberi ne s'en remet pas. Il perd la mairie de Paris en 2001 au profit de Bertrand Delanoë et fait basculer durablement la ville à gauche. Il réussit tout de même à conserver son fief du 5e arrondissement pendant 13 ans après avoir perdu la ville jusqu'en 2014.
Merci Stéphane Robert.
Un vote solennel pour un choix historique.
Oui, cet après-midi, les députés vont donc être appelés à se prononcer sur une question hautement sensible tant elle touche à l'humain dans son intimité la plus profonde. Après avoir reçu la vie sans jamais la demander, peut-on choisir sa mort? Quand l'incompréhension le dispute à l'agonie, peut-on décider de partir prématurément plutôt que de prolonger ses souffrances jusqu'à ce que mort s'en suive? La proposition de loi soumise au vote de l'Assemblée aujourd'hui vise à créer un droit à l'aide à mourir consistant à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, le tout selon des critères cumulatif strictement encadré, dont le fait d'être atteint d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale et présentant une souffrance physique ou psychologique constante. Alors étonnamment, durant ces deux semaines de débats dans l'hémicycle, les députés, certes divisés globalement, la gauche et le bloc central d'un côté, la droite et l'extrême droite de l'autre, sont restés relativement sereins, loin des postures trop dogmatiques. La France peut être fière de ses parlementaires, souligne d'ailleurs lui-même l'ancien député socialiste Alain Claisse, co-rapporteur en 2016 de la loi Claisse-Leonetti sur la fin de vie, membre du comité consultatif national d'éthique, il le dit à Rosalie Lafarge.
J'ai assisté physiquement à ce débat pendant les 15 jours. Deux mots me viennent à l'esprit, respect, et puis écoute, apaisé. Et je pense que c'était le climat indispensable pour aborder un sujet si intime, si difficile, où la société n'a pas à fixer des règles, mais où la société a fixé un cadre qui concilie la fraternité et l'autonomie. Je crois profondément que l'équilibre qu'a souhaité le président de la République est au rendez-vous. Alors bien entendu, ce texte n'est pas abouti, il ira au Sénat, il reviendra à l'Assemblée, il repartira au Sénat, mais je crois que des amendements ont été réintroduits pour préciser un certain nombre de choses, la place des directives anticipées, l'expression d'autonomie de la personne, redéfinir ce qu'était le moyen terme. Il y a eu toute une série de sujets qui ont été approfondis grâce au débat. Et j'ai vu comment le président de la République, ses ministres successifs, ont consulté les soignants, les confessions religieuses, philosophiques, l'ensemble des acteurs de notre société. Et je pense que cette consultation a été importante. On sent que le débat est un débat apaisé. Donc aujourd'hui, il faut continuer comme ça.
Voilà, Alain Claisse, membre du comité consultatif national d'éthique, il répondait à Rosalie Lafarge. Alors, l'atmosphère dans l'Assemblée cet après-midi devrait trancher avec l'ambiance crispée qui a parcouru l'hémicycle hier lorsque les députés du centre, de la droite jusqu'à l'extrême droite, partisans de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, ont eux-mêmes voté la motion de rejet du texte. Une manœuvre purement tactique, sinon politique, destinée à contourner les débats à l'Assemblée, notamment sur sa mesure la plus décriée, sur la réintroduction de certains pesticides et ainsi accélérer l'acceptation possible de ce projet en commission paritaire. Le premier syndicat agricole FNSEA, satisfait, a aussitôt suspendu sa mobilisation. En revanche, la gauche crie au déni démocratique. LFI a d'ailleurs promis une motion de censure.
Les représentants des taxis en colère étaient eux reçus ce matin au ministère des Transports.
Les chauffeurs mobilisés depuis une semaine qui contestent les conditions de concurrence avec les VTC et s'opposent par ailleurs à une convention censée modifier leur rémunération pour le transport de malades. Émeline Bonavent, bonjour.
Bonjour.
Après les promesses du Premier ministre François Bayrou, la profession attend donc maintenant des actions concrètes.
Oui, pour le moment, la situation reste encore très floue. François Bayrou a accepté de retravailler les détails de la convention à la fin de sa réunion avec les représentants des chauffeurs de taxi samedi. Mais ce matin, sur BFM TV, le Premier ministre a réaffirmé sa volonté de mettre en place la réforme dès le début du mois d'octobre et veut même faire encore plus d'économies que les 300 millions d'euros prévus sur 3 ans. Il compte sur les discussions menées avec les représentants des taxis aujourd'hui au ministère des Transports et de la Santé pour faire émerger de nouvelles idées. Les professionnels, eux, s'opposent toujours au nouveau système de rémunération pour le transport sanitaire. L'assurance maladie prévoit un forfait de 13 euros par patient transporté partout en France, puis un complément par frais kilométriques pour éviter la facturation des frais d'attente et des retours à vide. Ces trajets représentent parfois la majorité de l'activité des chauffeurs, surtout quand ils sont implantés dans des zones rurales. Les représentants des taxis espèrent que ces réunions aboutiront à de vraies négociations pour faire évoluer la réforme et ils attendent aussi des mesures concrètes pour limiter la concurrence avec les VTC. Si les discussions n'aboutissent à rien sur ces deux sujets, les taxis menacent de durcir la mobilisation dès demain.
Merci Emeline Bonavent. 381 plans sociaux ont été recensés ces 12 derniers mois en France. C'est ce qui ressort du comptage de la CGT dévoilé ce matin. C'est 3 fois plus qu'il y a un an. La moitié de ces plans dits de sauvegarde de l'emploi concerne l'industrie. Le reste touche les secteurs du commerce, de l'agriculture, de la grande distribution et de la construction. Et puis, le syndicat insiste aussi sur tous ces plans de licenciement plus silencieux dans les petites et moyennes entreprises, pour beaucoup toujours en cours et qui ne se traduisent pas encore forcément dans les chiffres du chômage. Alors face à ces chiffres, mais plus encore face à cette réalité peu réjouissante que peuvent faire les élus locaux, jusqu'à quel point ont-ils les moyens ou non de se battre pour la sauvegarde des emplois, notamment industriels? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Loïc Chesnais-Girard, président du Conseil régional de Bretagne. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Il y a un mois, presque jour pour jour, la validation d'une offre de reprise de la fonderie de Bretagne avait marqué un dénouement heureux après plusieurs mois de mobilisation contre le risque de fermeture qui planait sur l'entreprise. Qu'est-ce qui a permis ce tournant décisif? Quel rôle avez-vous joué dans cette mobilisation à l'issue favorable?
Je crois que ce qui a fonctionné sur Fonderie de Bretagne, c'est une mobilisation tout azimut. C'est-à-dire que les salariés d'abord, les hommes et les femmes de l'entreprise, se sont mobilisés et ont redit leur envie de voir cet outil de travail, une fonderie, rester présente sur le territoire breton. Et puis les élus ont fait équipe de France. Faire équipe de France, ça veut dire que depuis le maire jusqu'au ministre, en passant par les députés et le président de région, nous étions tous mobilisés avec un but commun, c'était de garder de l'industrie dans nos territoires, de garder cette fonderie, de garder cette vitalité économique et cet outil de souveraineté dans notre territoire régional.
On a souvent le sentiment, concernant donc les entreprises en difficulté, que l'échelon des enjeux locaux ne rencontre pas forcément les logiques qui dictent le plus souvent les prises de décision à l'échelle, cette fois-ci, des grands groupes industriels. En tant que responsable politique, est-ce que vous avez accès aux décisionnaires de ces fameux grands groupes ?
Ça dépend des groupes, très clairement. Il y a des groupes dans lesquels nous avons des échanges réguliers jusqu'au niveau du board pour pouvoir connaître leurs stratégies, y compris des stratégies qui les conduisent à faire des choix difficiles pour nos territoires. Et lorsque c'est fait en confiance, nous avons des capacités d'accompagnement, de transformation, pour faire en sorte que l'entreprise puisse continuer à assurer son développement, y compris en passant par des évolutions pour les personnels. Et puis d'autres groupes qui décident hors sol, ou qui, parce qu'ils ont parlé à un député à Paris ou un ministre à Paris, se disent qu'ils ont concerté les territoires. Et là, c'est dramatique, ça génère colère, ça génère drame, et ça génère un beau gâchis. Un gâchis parce que nos concitoyens, légitimement, ont le sentiment qu'on perd le contrôle, et puis un gâchis parce qu'il y a plein d'opportunités dans les territoires qu'on ne détecte que dans les territoires.
À ce titre, justement, vous plaidez pour davantage d'implication des collectivités territoriales dans les questions de développement économique des territoires, à rebours donc d'une certaine tendance, disons plutôt à la centralisation des décisions en matière de politique industrielle. Est-ce qu'il faut en déduire que vous ne faites pas confiance au pouvoir de l'État sur les décisions des grands acteurs industriels ?
Mais non, c'est pas l'État contre les collectivités, il n'y a pas les gentils et les méchants dans ce jeu-là. Il y a, encore une fois, le pays. Notre envie de servir ce pays, d'être capable ensemble d'offrir un avenir à notre société tout entière. Et donc nous avons besoin d'une vision stratégique posée par un gouvernement avec une stratégie bien posée qui soit en cohérence avec des territoires où les élus eux-mêmes assument dans le temps long, parce que nos mandats durent 6 ans, cette envie de développer nos territoires et d'accueillir des entreprises. Et lorsque, par exemple, avec Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, et nous, les élus locaux, on est capable d'avoir un échange, là, sur Fonderie de Bretagne, mais aussi sur l'industrie automobile, avec les différentes régions de France qui ont des filières automobiles sur leur territoire, et qu'on fixe un cap, et qu'on se passe la balle, et que chacun, dans nos domaines, nous sommes en cohérence, alors on sert la République, alors on sert le territoire.
Une vision stratégique, disiez-vous à l'instant. Il faut aussi peut-être des solutions face à la multiplication des plans sociaux. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander, par exemple, une plus grande conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Mais bien entendu, la région Bretagne, par exemple, conditionne ses aides. L'essentiel d'ailleurs des aides sont des avances remboursables, ce qui veut dire que quand l'entreprise gagne, et tant mieux pour elle, elle rembourse la collectivité. Et lorsqu'il y a des difficultés, nous prenons notre part de risque et des conditionnalités, nous en posons sur le nombre d'emplois dans le temps et nous vérifions la présence des emplois dans le temps. Mais les régions tout ensemble, c'est à peu près 7 milliards d'aides aux entreprises. L'État, dans sa diversité avec ses agences, avec ses ministères et avec les différents crédits d'impôt, c'est 250 milliards. Donc finalement, les régions, nous sommes toutes petites et nous pourrions faire beaucoup mieux en ayant, non pas plus d'argent, mais en agissant au nom de l'État et pour l'État. ce serait bien plus malin, bien plus près des territoires et avec des contrôles plus réguliers par des élus locaux qui vivent dans les territoires.
Une dernière question en quelques mots, s'il vous plaît. Depuis l'annonce d'un plan de suppression de postes par ArcelorMittal, une partie de la gauche, mais aussi la CGT, avance l'idée d'une nationalisation de la filiale française du groupe. Est-ce que la nationalisation de certaines entreprises peut faire partie aussi des solutions pour protéger l'emploi industriel ?
Ça peut être un des outils dans certains domaines hyper stratégiques. Est-ce que c'est nationalisation ou est-ce que c'est prise de participation ? En tout cas, il faut que nous ayons conscience que sur certaines grandes filières, comme effectivement l'acier, mais aussi les sujets de souveraineté alimentaire ou d'armement, il y a besoin, encore une fois, d'assumer notre autonomie stratégique pour assurer la cohésion sociale derrière et assurer la sécurité de notre pays. Et donc, il faut ne pas s'interdire cette capacité d'action, mais encore une fois, poser des caps clairs et mener du contrat avec les grands groupes qui choisissent de venir en France parce que nous sommes un pays qui est encore une fois attractif et qui offre une main-d'œuvre qualifiée, payée par nos impôts. Il faut assumer cela, fixer ce cap et qu'on fasse tous équipe de France.
Merci Loïc Chesnais-Girard, donc président du Conseil Régional de Bretagne, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Midi passé de 45 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Est-il encore possible de comprendre la stratégie du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou ? Sa guerre de représailles menée à l'aveugle dans la bande de Gaza sert-elle encore à un objectif militaire autre qu'une guerre sans fin, ou bien répond-elle uniquement à une idéologie morbide destinée à préparer le terrain pour la colonisation aux dépens de la vie des otages ? Quoi qu'il en soit, et tandis que son armée continue de bombarder intensément l'enclave, le Premier ministre a tenu à rappeler hier sa promesse de ramener tous les captifs, vivants ou morts, encore retenus par le Hamas, signe peut-être que l'escalade israélienne, comme les souffrances des civils palestiniens à Gaza, confrontés à des pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments, nourrissent une indignation croissante des familles des otages qui se sentent de plus en plus instrumentalisées par le gouvernement. Les précisions à Jérusalem du correspondant de RFI pour France Culture, Michel Paul.
Sur son compte TikTok et d'autres réseaux sociaux, avec un ton enjoué, alors qu'il se trouve dans un tunnel archéologique à l'issue de la journée de Jérusalem, Benjamin Netanyahou a annoncé espérer pouvoir faire une annonce sur les otages à Gaza aujourd'hui ou demain. Le bureau du Premier ministre israélien a rapidement tenté de rectifier le tir. C'était une façon de parler, a indiqué son entourage. Mais cela a provoqué de manière immédiate la colère des familles d'otages. Yotam Cohen est le frère de l'otage Nimrod Cohen, retenu à Gaza depuis 599 jours.
C'est tout simplement du terrorisme psychologique. C'est une façon de harceler les familles des otages. Un coup de poignard en plein cœur. Le fait que le Premier ministre ait trouvé bon de le faire d'une manière aussi grossière, aussi malheureuse et repoussante, ne peut être qualifié que d'abject.
Netanyahou joue avec des vies humaines, affirme la mère d'un autre otage, et une députée du parti d'opposition Yesh Atid affirme que Netanyahou vit dans un monde parallèle. Plus tard, Benjamin Netanyahou a publié un autre clip vidéo pour réaffirmer l'importance de libérer tous les otages. Et si ce n'est pas demain, ce sera peut-être après-demain, a-t-il conclu cette fois.
L'Ukraine peut désormais se défendre en attaquant des positions militaires en Russie. L'annonce est signée hier du chancelier allemand, lequel affirme que les principaux alliés occidentaux de Kiev, dont Berlin, ne fixeront plus de restrictions sur la portée des armes fournies. Pas beaucoup plus de précisions. Le flou demeure notamment sur une livraison possible de missiles Taurus. Alors l'objectif est-il de créer une ambiguïté stratégique, comme l'avait expliqué il y a quelques jours encore le porte-parole du gouvernement, de manière à ne pas donner d'indication au Kremlin. Toujours est-il que l'Ukraine frappe déjà régulièrement des cibles sur le territoire russe avec des armes occidentales. Alors comment faut-il comprendre la portée de cette annonce ? Est-elle susceptible de changer la donne sur le champ de bataille ? Omar Waman a posé la question au général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
C'est une nouvelle étape donc, qui est importante parce qu'elle vient de la partie allemande. Le chancelier Merz a une attitude beaucoup plus dure à l'égard de Moscou que son prédécesseur, le chancelier Olaf Scholz. L'objectif qui est recherché, frapper des bases aériennes, des dépôts logistiques. Et là, on est sûr de provoquer beaucoup de dégâts sur l'appareil militaire russe. Je dirais qu'on est plus sur un rééquilibrage parce que de toute façon, les Ukrainiens n'ont pas les moyens, y compris avec l'aide occidentale, de pouvoir être au même niveau. Je vais vous donner deux chiffres intéressants. On considère que les Russes ont un stock actuellement de 500 missiles balistiques au moins et ils produisent une centaine de drones Shahed, hein, le drone de conception iranienne, par jour. Donc de toute façon, même en donnant ce feu vert aux Ukrainiens, eh bien cela ne permet pas réellement de changer l'équilibre des forces, mais cela permet d'envoyer un signal fort à Moscou, et c'est extrêmement important dans la période actuelle. Et on peut penser notamment, par exemple, au pont de Kerch, hein, c'est ce pont qui relie la Crimée à la Russie, pour obliger Moscou à arrêter cette guerre meurtrière.
Alors, le général Jérôme Pellistrandi, donc il répondait à Omar Waman. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi nuageux au nord de la Loire, avec quelques gouttes de pluie possibles près de la Manche. Ensoleillé en revanche au sud, quant aux températures, elles seront comprises entre 16 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal, il a été réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.